autour de la question. Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur les réseaux omniprésents dans nos vies. Nous interagissons tous en réseau, dans le monde réel, comme dans les espaces virtuels, sur Internet et sur le web, pour le meilleur, le partage des connaissances en lien, mais aussi le pire, dissémination des fake news ou exploitation de nos données personnelles. Comment passer de l'utilisation de ces réseaux à leur compréhension? Comment ne pas se laisser calculer par tous ces algorithmes? Comment comprendre cette science émergente des réseaux qui explique, voire prédit, les comportements? Comment être mieux outillé et non plus seulement instrumentalisé? Piste de réponse avec notre invité, le chercheur en informatique Fabien Tarissant, qui nous entraîne au cœur des réseaux, titre de son essai indispensable, paru aux éditions du Pommier, autour de la question « Quelle science des réseaux ?» Bienvenue. Bonjour Fabien Tarissant.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager votre science des réseaux. Vous êtes chercheur au CNRS, chargé de recherche en informatique. Vous êtes également professeur attaché à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, mais aussi vice-président de la Société informatique de France. Particulièrement conscient donc des enjeux sociétaux liés à la science de l'informatique, vous avez à cœur de les partager avec le plus grand nombre, ce que vous faites avec talent dans cet essai qui vient de paraître aux éditions du Pommier, où vous nous entraînez, c'est son titre d'ailleurs, au cœur des réseaux, pour nous outiller, c'est ça Fabien Tarissant, pour que nous ne soyons plus seulement de simples utilisateurs instrumentalisés par toutes nos technologies en réseau.
Bonjour, alors effectivement il y a cette motivation qui traverse mon livre, qui est de, comme vous l'avez rappelé, il y a des enjeux qui sont derrière les réseaux, et en particulier les réseaux informatiques, hein, vous avez cité les fake news, l'exploitation de nos données personnelles, et il y avait ce sentiment que la plupart du temps, les citoyens ne se sentent pas forcément armés pour réfléchir sur ces problèmes, pour peser sur les choix qui leur sont offerts. Et donc il y avait cette volonté de tenter de décrypter un peu mieux ces mécanismes-là. Il y a une deuxième motivation qui traverse aussi ce livre, en filigrane, qui est de parler de science, vous l'avez dit aussi. Et donc de montrer comment...
À la fois de science des réseaux et de réseaux en science.
Et de réseaux en science et de science tout court. C'est-à-dire que de montrer que pour expliquer ces phénomènes, on peut s'appuyer sur des résultats qui viennent de la communauté scientifique. Parce que j'ai aussi cette conviction que ce qui est dur en science, c'est d'établir des résultats. Ça, c'est un métier, vous l'avez rappelé, je suis chercheur. C'est mon métier que de faire progresser l'état des connaissances dans ma discipline, l'informatique. Mais une fois que les résultats sont établis, les partager, les faire comprendre, ça devient accessible. Et ça devient aussi quelque chose d'important et utile pour comprendre un peu mieux ces réseaux.
D'autant que nous sommes tous des utilisateurs hein, tout le temps de ces réseaux, de l'informatique et du numérique en général. L'idée c'est quoi? C'est de nous aider non pas à véritablement comprendre comment ça fonctionne, mais d'ouvrir un peu le capot ou la boîte noire.
D'ouvrir le capot effectivement, de comprendre un peu mieux comment fonctionnent concrètement et au quotidien ces algorithmes, ces réseaux, et donc nous armer, alors non pas pour devenir informaticien typiquement, mais pour s'aider à réfléchir sur ces enjeux, comprendre d'une part les mécanismes et comment est-ce qu'on peut raisonner pour peser les avantages, les bénéfices, mais aussi les dangers qui traversent ces réseaux.
Et les bénéfices ou les défauts ou les désavantages ne sont pas toujours ce qu'on croit. Nos peurs, nos craintes ne sont pas toujours fondées ou pas toujours bien placées, c'est ça?
Exactement. Hein, et c'est souvent dû à une incompréhension au départ de ce qui fonde la nature des réseaux, ici Internet ou le web.
Autour de la question pourquoi et comment les réseaux sont aujourd'hui omniprésents, je propose qu'on se rafraîchisse la mémoire et les oreilles avec le mix forcément en réseau d'Hugo Violas.
Et puis le monde à portée de main, sans bouger de son fauteuil, c'est possible avec son ordinateur connecté sur le réseau international appelé Web.
Vous avez tous l'image de l'iceberg avec Internet en surface, le Deep Web sous l'eau qui est beaucoup plus gros que la partie qui est en surface. Et tout en bas du glacier, il y a le Darknet.
Vous avez remarqué comme ces deux petits mots se sont imposés à nous ces derniers temps? Les fake news, ou fausses informations. Elles se propagent à la vitesse de la lumière par les réseaux sociaux, jamais vérifiés, très souvent gobés.
Alors l'algorithme d'Instagram, c'est un peu comme pour Facebook, il se ressemble beaucoup hein, puisque les deux compagnies sont liées. Et comme pour Facebook, eh bien l'algorithme d'Instagram, c'est quelque chose de très secret.
sur tous les programmes scientifiques, effectivement, on fonctionne toujours en réseau. En général, on utilise des missions spatiales. Et évidemment, il n'y a pas qu'une personne qui travaille, on est partout dans le monde.
Oui, je trouve que c'est une question vraiment importante aussi par rapport au fait de transmettre à tout le monde qu'on fonctionne en réseau et à quel point c'est important de collaborer, de construire des ponts plutôt que des murs.
C'est quoi Internet exactement? En gros, alors c'est le réseau de tous les réseaux. Vous branchez sur Internet et vous pouvez communiquer avec tous les ordinateurs du monde.
Combien d'abonnés aujourd'hui?
Dans le monde, 40 millions de connectés.
Internet, le réseau des réseaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau, Fabien Tarisson?
Alors, un réseau, et c'est ce qui fait la puissance de ce concept, et c'est pour ça qu'on le retrouve dans tout un tas de sciences, alors en particulier en informatique, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est le fait d'être en face de phénomène ou d'un système qui repose sur des interactions entre des entités. Et posé comme ça, on les retrouve, donc ça explique pourquoi Internet est un réseau, c'est parce qu'on est en train de mettre en relation des machines, des ordinateurs, qu'on appelle plus spécifiquement des routeurs, on pourra revenir sur ce nom-là. Le web est aussi un réseau, mais un réseau d'une autre nature, où on a des pages web cette fois-ci, donc des contenus d'informations qui sont reliés entre elles par des citations, qui sont des liens hypertextes. Mais on retrouve ce concept dans tout un tas, et ça a traversé tout un tas de sciences. On le retrouve en biologie, notre cerveau est un réseau,
de neurones, hein,
exactement. Oui. Donc là, les entités sont des neurones, et il y a des interactions entre ces neurones via des synapses, et on peut en trouver en linguistique, en économie,
jusqu'au banc de poissons, au nid d'oiseaux, enfin tout fonctionne finalement. Dès qu'il y a plusieurs ensembles, c'est une forme d'intelligence collective, le réseau.
Alors il y a une partie qui fait du coup émerger une intelligence collective, mais ce qui vraiment définit le réseau d'un point de vue très très formel, c'est dès qu'on a des interactions entre des entités. Donc dès qu'il y a du lien, dès qu'il y a de l'interaction, dès qu'il y a de la communication entre des entités, on est en face d'un système qui est un réseau.
On est en train de fabriquer un petit réseau là, nous deux au micro
tout à fait,
et puis tous nos auditeurs dans le monde.
On est en train d'interagir et donc on est en train de créer un lien ponctuel aujourd'hui, maintenant, et donc on est en train effectivement de créer un lien entre deux individus.
Alors dans votre ouvrage, hein, Au cœur des réseaux, vous commencez d'abord par nous expliquer, et c'est fondamental, et grâce à vous j'ai enfin bien compris, la différence entre Internet et le web. Alors, dès les origines, c'est pas la même chose, ça n'a pas les mêmes enjeux et ça n'est pas la même chose.
Tout à fait. Et alors, d'ailleurs, dans le petit mix qu'on vient d'entendre, il y avait au tout début une confusion qui est faite entre le terme Internet et le web. Alors, il faut dire que ça ne me paraît pas très grave que dans le langage courant, on fasse la confusion entre ces deux termes, qu'on dise qu'on allait surfer sur Internet ou chercher de l'information sur Internet, alors que c'est un petit peu impropre au regard de la.
On cherche de l'information et on surfe sur le web.
Alors, on cherche de l'information ou on surfe sur le web, exactement. Et on utilise pour ça, pour faire fonctionner le web, on se sert de l'Internet qui est en dessous. Confondre les deux termes, ça ne me paraît pas très grave. Par contre, quand on commence à s'intéresser aux enjeux qui sont derrière, et alors là, on a besoin de comprendre un peu plus profondément la nature de ces réseaux, parce que comprendre la nature, c'est déjà un peu mieux comprendre les phénomènes que l'on veut exploiter, qu'on veut analyser.
Et dès l'origine, si j'ose dire, d'Internet et du web, c'est pas du tout la même démarche qui a procédé à leur invention.
D'autant plus qu'ils n'arrivent pas au même moment. Internet arrive dans les années 70. Dans les années 70, les premiers projets, les premières traces de construction de réseaux précurseurs d'Internet, ce qui s'appelait ARPANET, date de la fin des années 60. Et l'objectif, c'est de créer un réseau de machines capables de communiquer et d'envoyer, et donc de recevoir, de l'information sous forme numérique.
Et ça vient du côté des États-Unis et de l'armée américaine.
Tout à fait, c'est financé par l'armée américaine, mais c'est déployé, ça dépasse assez vite l'armée, disons le motif militaire initial. Et ce qu'a permis ce projet ARPANET, c'est de montrer, de faire la preuve qu'il était possible de mettre en réseau des ordinateurs, qu'on va ensuite appeler routeurs, donc qui vont recevoir de l'information et la propager aux ordinateurs auxquels ils sont connectés, jusqu'à acheminer un bout d'information à l'ordinateur qui était destinataire d'un message.
Donc ça, c'est Internet.
Ça, c'est un réseau. Mais il se trouve que ce réseau ARPANET, qui est un réseau, qui est avec son propre fonctionnement, a donné l'idée de faire un peu partout des réseaux.
Et une fois qu'on de relier toutes ces machines entre elles.
D'avoir des bouts de réseau qui sont pour l'instant disjoints.
D'accord, donc des bouts de réseau.
Des bouts de réseau. Chaque bout de réseau essaie d'échanger de l'information dans son réseau. Mais alors, comment échanger de l'information d'un nœud d'un réseau au nœud d'un autre réseau? Alors là, c'est beaucoup plus difficile. Et ça demande de se mettre d'accord, d'imaginer des standards de communication qui vont permettre aux réseaux de se parler entre eux.
Au nœud de réseau de se parler entre eux.
Voilà, donc Internet, ça veut dire dire interconnected network. Donc c'est le fait de mettre en réseau des réseaux. C'est pour ça qu'une autre façon de définir Internet, souvent on parle du réseau des réseaux, et c'est assez fidèle finalement à ce qu'est Internet. C'est le fait de mettre en relation des réseaux. Si demain vous voulez créer votre propre réseau, le réseau RFI interne, à partir du moment où vous utilisez les mêmes règles...
Il y a des intranets dans les entreprises.
Bien sûr, exactement. Et dès que vous voulez votre propre réseau le relier à l'ensemble du réseau mondial Internet, il suffit que vous implémentiez les règles de fonctionnement sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord pour que, effectivement, vous puissiez communiquer depuis votre propre réseau à vous à n'importe quelle machine reliée à Internet.
Alors là, j'ai tout compris sur Internet, et c'est différent du web dès le départ, dès la philosophie de départ, et c'est différent.
Alors, c'est différent dans la philosophie, dans la manière dont ces réseaux sont construits. Donc si on parle du web maintenant, il faut avancer de 10 ans, on arrive dans la fin des années 80, 89 même, donc début des années 90.
Oui, puisque le CERN, on va y venir à célébrer là, les 30 ans
c'est
du
web.
C'est
ça, tout à fait, le 23 mars dernier. Et là, l'objectif est tout autre, c'est l'idée que... Alors, Internet, maintenant, on a une image où toute l'information est disponible. Il suffit d'aller sur Internet, même si c'est impropre, pour voir de l'information. Mais ça, lorsqu'il n'y avait que Internet et pas le web, ce n'était pas possible. Internet, c'est un réseau qui permet d'acheminer l'information. Donc il faut bien que quelqu'un ait la volonté d'envoyer une information. Et là, on utilise Internet, le destinataire le reçoit. Mais en tant qu'utilisateur, on ne peut pas aller sur Internet à ce moment-là et récupérer de l'information. Rien n'est visible. Il faut qu'on reçoive un message. C'est comme la poste. La poste, on a besoin que quelqu'un envoie une lettre. On ne peut pas aller à la poste et demander à recevoir du courrier. C'est pas possible.
Internet, c'est la poste et le web, c'est le courrier.
Voilà, c'est ça. Et le web, ça a été cette volonté de trouver des mécanismes qui rendent visibles, qui rendent disponibles les informations que l'on souhaite mettre, qu'on souhaite rendre visibles à la communauté.
Et ce qui a présidé hein, à la création, enfin à l'invention du web, c'est une communauté de physiciens et c'est notamment Tim Berners-Lee.
Alors on vient de le dire. Oui.
Je dis des bêtises, c'est Tim Berners-Lee.
C'est ça.
Absolument. Rendons hommage à Tim Berners-Lee, comme le CERN à Genève, où on a donc célébré cette année les 30 ans du web, réseau qu'il a inventé, créé par et pour les physiciens, pour communiquer hein, au départ avec les autres physiciens. Sauf que Tim Berners-Lee fut vraiment un visionnaire et qu'il a pressenti la révolution que le web allait engendrer. Je vous propose d'écouter deux hommages qui lui ont été rendus au CERN. Vous pouvez d'ailleurs, amis auditeurs et internautes, voir toutes ces vidéos sur le site du CERN consacré aux 30 ans du web, avec par ordre d'apparition François Flückiger, un des pionniers de la promotion du web en Europe, qui a dirigé l'équipe web au CERN après le départ de Tim Berners-Lee. Et ensuite, on écoutera la chercheuse en informatique Maria Dimou du CERN revenir sur cet aspect visionnaire de Tim Berners-Lee, je vais y arriver, sacré inventeur du web, retour sonore sur la genèse, donc du World Wide Web.
L'inventeur du web, Tim Berners-Lee, disait dès le premier jour que le web était un support réseau libre et ouvert, et il insistait toujours là-dessus. Il a eu la capacité de prévoir que le web devrait être accessible à tout le monde, même aux personnes ayant un handicap physique. Il l'a compris très tôt et s'est battu avec beaucoup de passion pour le développement du web sémantique et l'expansion de ses fonctionnalités, mentionnant dès le premier jour qu'on pourrait enregistrer sa carte de crédit sur un clavier intelligent ou un ordinateur capable de déchiffrer la bande de lecture de la carte, et que l'on pourrait connecter son réfrigérateur au web qui enverrait automatiquement une commande au magasin du coin pour acheter des œufs, car le compartiment serait vide. C'est ce qu'il a dit au tout début des années 90, bien avant l'ère des achats en ligne dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
Jacques Monod, The Nobel Prize Laureate.
Jacques Monod, lauréat du prix Nobel, affirme que l'avènement de la vie est une combinaison de hasard et de nécessité. C'est peut-être la même chose pour l'avènement du web. Une nécessité parce que 10 000 physiciens éparpillés dans le monde entier avaient besoin d'échanger leurs informations. C'était un vrai besoin. Étonnamment, ce n'était pas une exigence. Ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin du web, du moins sous cette forme. C'est une propriété commune à de nombreuses inventions disruptives. Personne ne la réclame. Mais une fois qu'elle est là, on ne peut plus s'en passer.
Chance, it turned out that Tim Berners-Lee.
Par chance, il s'est avéré que Tim Berners-Lee était un expert mondial dans deux domaines. Le format document, c'est pourquoi il a inventé le HTML, la norme pour décrire les pages web, et la mise en réseau, c'est pour cela qu'il a inventé le HTTP, la norme des échanges entre pages web. Et s'ils fonctionnent si bien ensemble, c'est probablement parce qu'ils ont été inventés par le même cerveau.
Vous voulez réagir, Fabien Tarissant, sur ces interventions hein, donc de Maria Limoux et de Frank Flückiger sur Tim Berners-Lee, l'inventeur du web il y a 30 ans.
Effectivement, il y a quelque chose de fascinant et d'assez fort dans ce qui a été proposé à ce moment-là, parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'idée d'exploiter Internet. Donc c'est vraiment l'idée que Internet existe, et on va exploiter les capacités de communication d'Internet pour aller au-delà et donc fournir et permettre d'échanger, de diffuser, en l'occurrence c'est de la recherche scientifique entre chercheurs. Donc il ne suffit pas d'avoir l'idée, il faut trouver comment le faire, et ça demandait plusieurs choses. Il fallait tout d'abord, et là ça a été évoqué, imaginer un langage, un formalisme pour décrire les contenus des pages web, donc c'est ce qu'on appelle le HTML. Alors on ne le voit pas quand on utilise un navigateur, mais notre navigateur, lorsqu'il affiche une belle page web, en fait derrière il y a une description en mots et en mots-clés de comment cette page doit s'afficher.
Donc il a fallu inventer un langage.
Il faut inventer un langage pour décrire ça. Donc ça c'est une première chose, c'est inventer une façon de décrire le contenu d'une page. Il faut ensuite inventer un programme qui, ce qu'on appelle un serveur maintenant, un serveur web, qui va sur demande envoyer le contenu, donc le code HTML justement d'une page au navigateur qui en fait la demande. Et pour faire cet envoi, encore une fois, on va s'appuyer sur Internet. C'est Internet qui va véhiculer l'envoi de cette information.
C'est les tuyaux Internet, exactement, c'est les nœuds et les tuyaux.
Exactement. Et enfin, il faut, justement, j'ai déjà dit le mot, un navigateur, c'est-à-dire un programme qui, lorsqu'il reçoit enfin le code HTML d'une page, sait comment la disposer à l'écran pour l'utilisateur. Et c'est ça qui est fort à la fin des années 89, enfin en 89, c'est que Tim Berners-Lee et des gens avec lui ont mis en œuvre ces trois composantes. Hein, donc c'est un langage, des mécanismes de serveurs qui vont répondre à des requêtes et un programme qui est un navigateur qui va apprendre à afficher à l'écran le résultat.
Alors vous l'avez dit, à l'époque, Tim Berners-Lee et ses collègues étaient physiciens, ils voulaient échanger des informations scientifiques. Aujourd'hui, c'est nous tous, tout le monde, qui vivons grâce à Internet et grâce au web. Mais aujourd'hui, les enjeux, ils sont plus scientifiques. Ils sont d'abord économiques, finalement, c'est quand même ça.
Ils sont aussi économiques, je dirais.
Ils sont aussi économiques.
Ils sont aussi économiques, donc c'est quand même très très fort que, via le web et Internet derrière, on soit capable tous de contribuer au contenu qui est disponible sur le web. On peut chacun créer une page web et la rendre disponible. Après, sa question de sa visibilité, c'est autre chose.
Alors là, il s'agit aujourd'hui, et ça pose question, des moteurs de recherche. C'est ça qui nous met en avant, par exemple, mais pas que.
Pas que. Il faut bien se rendre compte que les moteurs de recherche, ils répondent à une demande et à une nécessité. On est en phase de, je crois que les chiffres, c'est qu'on dépasse 1 milliard de pages web. Donc, il n'est pas raisonnable de laisser les utilisateurs en face d'une masse de pages web d'un milliard.
On peut pas faire le tri,
c'est pas possible. C'est ça, non organisé. Il nous faut des outils pour ça, et les moteurs de recherche, comme d'autres algorithmes, répondent à cette nécessité. Donc, on peut pas juste rejeter, je veux dire, le besoin qui est d'organiser l'information qui est disponible sur le web. Par contre, on peut s'interroger sur l'impact qu'il a sur la manière dont on utilise le web.
C'est
ça. Ça, c'est autre chose.
Et on peut s'interroger parce que là, pour le coup, il y a des raisons économiques derrière, et parce que du coup, on peut se laisser manipuler. C'est-à-dire que finalement, nous, on ne voit que les quelques informations. Enfin, on voit que ce qui arrive en premier et ce qui ressort.
C'est-à-dire que mécaniquement, donc pour répondre à cette demande, on est en train de dire qu'il faut classer, qu'il faut organiser, hiérarchiser l'information. Et ça, encore une fois, c'est quand même une nécessité. Mais ça pose la question de quelle est cette fraction extrêmement fine, extrêmement petite, qui est rendue visible par ces mécanismes. Donc typiquement les moteurs de recherche, mais aussi les algorithmes sur les réseaux sociaux et tout un tas d'autres. Et effectivement, là, il faut réussir à comprendre, et ça fait partie de la recherche, hein, la communauté scientifique s'empare de ces sujets, c'est aussi le sujet de mon livre, d'essayer de comprendre quels sont les biais qui sont induits par ces mécanismes, est-ce qu'on est capable de les contrebalancer, est-ce qu'on est capable de les mesurer déjà, et quelque part de les maîtriser.
Parce qu'en fait, il n'y a pas un complot derrière, c'est pas une histoire de complot.
Pas du tout.
Parce qu'on a souvent l'impression de ça, on se dit, oh là là, on va être gouverné par les algorithmes, les horribles GAFAM qui sont peut-être horribles mais qui ont des raisons économiques de nous emmener là ou là. C'est pas un complot derrière, c'est qu'il faut bien que ça fonctionne d'une certaine manière et que c'est comme ça que ça fonctionne, mais plus on en est conscient et plus on peut peut-être y échapper. Par exemple, sur notre téléphone, ne pas regarder les infos qu'on nous propose, mais voir qu'il y en a
peut-être
d'autres.
Exactement, et on revient sur une des motivations de mon livre, c'est justement de faire comprendre ça, de faire comprendre qu'on peut peser sur ces phénomènes-là si on comprend comment ils fonctionnent. Et donc de comprendre quelle est la motivation de ces algorithmes. Si on prend les moteurs de recherche, tous les moteurs de recherche offrent un service gratuit. C'est-à-dire qu'on est utilisateur, on va en ligne, on tape des mots-clés, on nous renvoie une liste de pages web pertinentes, parce que l'expérience utilisateur montre que quand même ce sont de bonnes pages web qui sont proposées, et ça gratuitement. Alors là, il faut tout de suite s'interroger. Si c'est gratuit, alors qu'il y a un travail derrière, et ça devient légitime pour ces sociétés de trouver rémunération. Ça demande des emplois de faire ça, ça demande des infrastructures pour stocker, ça demande des développeurs pour imaginer les algorithmes et les implémenter. Il y a un travail qui est fait, il faut bien qu'ils soient rémunérés. Et la réponse, si on creuse un petit peu, c'est pas si difficile finalement de se rendre compte que le modèle économique derrière, c'est que en fait, ces moteurs de recherche, ils ne vendent pas le service qui nous apparaît visible, qui est une réponse, une liste de pages web, c'est ils vendent un service à des annonceurs. C'est-à-dire que leur compréhension, le fait qu'ils aient une masse d'utilisateurs, fait qu'ils ont à leur disposition une compréhension de quels sont les centres d'intérêt des gens. Et donc, ils peuvent vendre ce temps d'attention à des annonceurs qui veulent vendre un produit. Et c'est là-dessus que l'économie se bâtit.
Ce temps d'attention, hein, c'est la course à la quête de notre attention.
Exactement,
hein.
Exactement.
Donc à nous de faire attention, justement.
Et donc à nous aussi de faire attention, d'être au courant, disons, de ce phénomène-là, de cette source de revenus-là, disons.
On continue de s'interroger avec vous au cœur même des réseaux et de leurs enjeux, en musique cette fois, avec le collectif 13, qui ne mâche pas ses mots dans ce morceau intitulé « Réseau » sur RFI.
Pas de Wi-Fi, pas d'Internet, pas de réseau, rien ne se connecte. Aucun filtre entre nous, pas de marketing, balance le son, on s'évade sur le streaming. Pas de Wi-Fi, pas d'Internet, pas de réseau, rien ne se connecte. Aucun filtre entre nous, pas de marketing, balance le son, on s'évade sur le streaming.
Je suis l'extension, le contrôleur, je change de version de navigateur. Firefox, activation, inbox ou Twitter. Dans le Vidéotron Internet Explorer, je suis l'extranet, le Netscape. Je suis toutes les facettes, je suis le serveur. Si tu m'enlèves Internet, ça me raye la disquette. Faut jamais que ça s'arrête sans antidépresseur.
Gardez le contact et tout enflammé. Faut que je fasse parler de moi sur la toile que j'ai tissée. Like et puis partager. J'ai besoin de faire grandir ma notoriété. Je ne compte plus les heures, encore moins les secondes. Sur Facebook ou Twitter, je suis le maître du monde. La lumière du jour ne vient même plus m'apaiser. La seule fenêtre qui s'ouvre à moi, c'est celle de mon PC.
Pas de Wi-Fi, pas d'Internet, pas de réseau, rien ne se connecte. Aucun filtre entre nous, pas de marketing, balance le son, on s'évade sur le streaming. Pas de Wi-Fi, pas d'Internet, pas de réseau, rien ne se connecte. Aucun filtre entre nous, pas de marketing, balance le son, on s'évade sur le streaming.
Ouch.
À 30 piges, le libre arbitre qui s'effrite, les crampes aux phalanges et les tempes figées. Je suis la perte de vision, l'esprit étriqué, le hashtag friendship, les relations fabriquées. J'ai des caractères, je suis la story sans intérêt, la catharsis réfractaire et terre à terre. L'écran communique liberté, moi je communique pas, je communique.
Ça pulse le réseau du collectif 13 sur RFI, ça vous plaît Fabien
Tarrechan? Ah oui, je trouve ça c'est frais. Il y a beaucoup de mots qui ont été repris, qui décrivent beaucoup d'attitudes des utilisateurs. Hein. J'ai entendu un passage là qui disait « je cherche à construire ma notoriété ». Donc ça c'est effectivement assez emblématique de l'utilisation assez massive des réseaux sociaux où on se construit une personnalité qu'on essaie de rendre visible, c'est assez vrai.
Alors vous nous entraînez au cœur de tous ces réseaux, Fabien Tarrechan, dans votre essai qui vient de paraître aux éditions du Pommier. Alors vous nous faites approcher aussi à la fois la science des réseaux, mais aussi des réseaux en science. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter l'éclairage de l'astrophysicienne Françoise Combes. Elle est professeure au Collège de France sur la chaire Galaxie et Cosmologie. Elle était récemment notre invitée.
Déjà, le réseau Internet, c'est un outil indispensable. Aujourd'hui, nous sommes derrière notre écran d'ordinateur du matin jusqu'au soir. Et même, je dirais qu'auparavant, on allait vers les télescopes pour observer. Maintenant, on observe de son bureau, devant son ordinateur. Le télescope bouge lorsqu'on fait un clic et on observe directement de son bureau, ce qui change complètement notre métier. Donc ces réseaux, c'est fondamental pour nous.
Et finalement, si on installait un télescope sur la Lune, on pourrait aussi depuis son bureau...
Ah, exactement. D'ailleurs, de Hubble télescope, c'est comme ça qu'on fait. Hein. On fait une demande de temps de télescope, on l'obtient. Et ensuite, on envoie un petit peu des codes, en fait, pour que le robot qui est sur Hubble observe et fasse exactement toutes les actions qu'on lui demande. Et puis ensuite, on reçoit les données obtenues. Donc maintenant, on fait plus comme ça. En fait, ça a été un petit peu dans l'espace d'abord, parce qu'on ne pouvait pas y aller. Et maintenant, même les télescopes au sol Ils sont comme ça. Donc on observe en réseau, et puis on a aussi des conférences en réseau, des conférences, des téléconférences, etc. Donc tout se fait en réseau aujourd'hui.
Tout se fait en réseau aujourd'hui, en particulier la recherche en sciences, hein, toutes les sciences, qu'elles soient sciences dures, sciences exactes, comme sciences humaines.
Hein, il y a deux choses à considérer. Il y a effectivement le fait que les réseaux dont on parle, le réseau Internet, le web, a permis de faire différemment la recherche scientifique, effectivement, dans un tas de sciences, et c'est ce qui est dit dans l'extrait. Mais il y a un autre aspect des réseaux dans les sciences, qui est le fait que les réseaux étant un concept, et un concept assez générique, dès qu'on a un réseau, on l'a dit tout à l'heure, c'est dès qu'on a une collection d'entités qui interagissent, et bien du coup ils deviennent une grille de lecture, une grille d'analyse qui peut être utilisée dans tout un tas de sciences. C'est-à-dire comprendre, avoir le point de vue quand on raisonne sur le réseau, avoir le point de vue des réseaux de neurones pour comprendre comment ils fonctionnent, ça éclaire sur le fonctionnement des neurones dans notre cerveau.
C'est-à-dire que ça sert, oui, aux neuroscientifiques pour comprendre le fonctionnement de notre cerveau en réseau, ça sert à toutes les échelles, ça sert aux biologistes pour comprendre les bancs de poissons ou la circulation automobile, enfin on peut l'appliquer finalement à tous les systèmes vivants, même pas vivants.
Dès qu'on a affaire à des relations, dès qu'une partie du système qu'on est en train d'analyser, d'observer dans son domaine scientifique contient une partie du fonctionnement qui repose sur des interactions, alors ça veut dire qu'une partie de l'explication va pouvoir être éclairée à travers le concept de réseau. Ça ne veut pas dire qu'il sera unique, peut-être qu'il y a d'autres manières d'aborder le système qu'on est en train d'étudier, mais en tout cas cette abstraction qui consiste à ne retenir du fonctionnement que l'aspect interaction entre entités va déjà éclairer une partie des phénomènes qui sont observés.
Parce qu'en fait, moi, je me demandais si finalement, on n'était pas aujourd'hui en train de penser systématiquement en réseau, comme on s'en sert et qu'on sait bien qu'on s'en sert, si finalement, ça n'était pas en train d'envahir, au fond, un peu notre pensée, puis tous nos domaines, finalement. C'est le réseau et on a trouvé. Alors, c'est peut-être plus compliqué que ça.
Non, oui, c'est-à-dire que ça ne répond pas à toutes les questions. Il ne faut pas non plus fantasmer sur tout ce que ça va expliquer. Ça ne va expliquer que la partie des phénomènes qui se repose sur des interactions. Mais il y a tout un tas de phénomènes qui ne reposent pas sur des systèmes en interaction, et ceux-là ne seront pas expliqués par les réseaux. Et c'est pas grave. Ce qui est important en science, c'est de trouver une démarche, une méthodologie un petit peu formelle. Donc ici, la méthodologie, ça consiste à ne retenir d'un système à l'étude que l'aspect réseau, pour regarder qu'est-ce qu'il est capable d'expliquer sur les phénomènes qu'on observe par ailleurs. Et ça nous éclaire. C'est une démarche scientifique assez saine qui consiste à faire un pas d'abstraction pour ne retenir qu'une partie du fonctionnement et regarder ce qu'on arrive à expliquer à partir de là.
À simplifier en quelque sorte, ou à résumer en réseau et à étudier ce que ça fait le réseau. Alors justement, comment ça s'organise? Comment s'auto-organisent des réseaux aussi différents que les colonies de fourmis, les neurones dans notre cerveau ou la circulation automobile? C'est la question que vous pose le physicien Stéphane Douedi. Alors lui, il travaille sur la formation des dunes de sable et même sur le champ des dunes de sable. Écoutez sa question.
Effectivement, tout fonctionne en réseau, on s'en rend de plus en plus compte, c'est que tout est lié avec tout, on peut même dire à l'échelle, la planète, c'est Gaïa, effectivement, tout réagit, et dans une cellule, dans un organisme, dans une société. Les physiciens sont beaucoup amusés à essayer de décrire les structures de ces réseaux avec des petits mondes ou faire des chiffres statistiques, mais une question que j'ai, c'est comment la dynamique dans le réseau crée cette forme-là? C'est-à-dire, est-ce que les objets qui interagissent finissent par créer une interaction particulière qui donne une propriété globale, ou est-ce qu'il y a d'autres mécanismes à l'intérieur? C'est-à-dire, comment les choses se structurent un peu d'elles-mêmes? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'on trouve le même genre de réseau partout ou pas?
Votre réponse, c'est intéressant.
Il a mis le doigt sur quelque chose qui moi, me fascine particulièrement. Donc, il met en évidence le fait que les propriétés... Donc, lorsqu'on étudie des réseaux, qui viennent d'ailleurs de contextes très différents, on observe qu'il y a des propriétés similaires. Alors qu'ils appartiennent à des contextes, l'un biologique, l'autre linguistique, l'autre informatique, etc. Et on observe des systèmes d'organisation, alors au niveau global, qui sont similaires. Il a cité le terme de petit monde, on pourra y revenir. Mais c'est le fait que les distances, en moyenne, les distances dans les réseaux sont assez courtes au regard de la taille du réseau. Et le fait qu'ils s'organisent sous la forme de petits clusters extrêmement denses localement.
Des petits groupes de nœuds qui sont tous
fortement reliés entre eux. Et donc ces deux propriétés font qu'on qualifie un réseau qui a ces deux propriétés de réseau petit monde. Et on observe
C'est un monde en soi, quoi. C'est pas ça.
C'est pas exactement ça. Mais disons qu'on peut considérer que voilà, ça c'est une propriété du réseau, qui est une propriété, c'est là que ça devient intéressant, qui est à l'échelle globale du réseau. Or, il l'a souligné, la formation de ces réseaux, la dynamique dynamique qui traverse les réseaux, elle, elle est extrêmement locale. On discutait tout à l'heure du fait qu'on était en train de créer un lien entre nous.
Avec les auditeurs.
Et voilà, alors c'est vrai qu'il y a, là, il y a les auditeurs, donc les auditeurs. Ça rend
mais
le système un peu plus complexe,
deux.
Mais déjà entre nous deux. Mmh. Et ça, c'est purement local. Il n'y a aucune planification à l'échelle mondiale qui nous oblige d'interagir. Mmh. Et ça, c'est général dans les réseaux. Les réseaux s'organisent à travers des interactions qui sont locales. Comment se fait-il que ces choix locaux, deux à deux, complètement décentralisés, fassent qu'à l'échelle globale du réseau, le réseau s'organise sous une forme qui est assez régulière. Donc ça, c'est fascinant
c'est
de comprendre
fascinant comme
comment,
question.
Quels sont les
c'est
mécanismes.
C'est métaphysique, enfin.
Et c'est presque. Et c'est la question qu'il pose. C'est quels sont les mécanismes qui, alors que ces mécanismes ont expliqué les fonctionnements au niveau local du réseau, vont faire que, mis bout à bout, le réseau dans son ensemble va exhiber une structure qui est toujours la même ou pratiquement toujours la même. Et ça, c'est une des questions que se pose la science des réseaux. C'est de comprendre, de mettre en évidence ces mécanismes locaux qui font qu'on a une propriété globale qui émerge. Et on parle de propriété émergente, justement.
Et justement, cette science des réseaux, cette science émergente des réseaux, elle cherche à comprendre ça, comment ça se forme les réseaux, comment finalement, oui, vous le dites bien, que ce soit biologique, linguistique, neuronal, ou mécanique, ça marche de la même manière. Elle cherche à comprendre comment ça marche, mais aussi pour pouvoir prédire justement les comportements des réseaux. Et là, c'est génial, et en même temps, ça peut faire peur aussi.
Alors, c'est prédire aussi au sens de l'évolution. C'est-à-dire que si on comprend bien les règles qui animent et qui traversent les réseaux, on peut peut-être comprendre comment ils vont évoluer dans les jours qui suivent. C'est pas forcément la prédiction comportementale. C'est-à-dire que dès qu'on met l'être humain. Et ça, c'est une propriété assez forte. Quand on étudie un système solaire, le fait de comprendre comment les planètes tournent ne va absolument pas changer comment les planètes vont tourner. Par contre, si vous mettez en évidence comment les êtres humains s'organisent, alors là, ça peut avoir un impact en réaction par les êtres humains. Donc ça, les êtres humains ont quelque chose de particulier qui est que quand on exhibe leur comportement, ils ont tendance à modifier leur comportement. Ce qui n'est pas vrai partout, ce qui n'est pas vrai dans tous les systèmes.
Donc là, il faut faire attention.
Il ne s'agit pas de prédire le comportement des gens.
C'est
par
ça.
Contre, si on parlait de réseau de quelque chose d'inanimé, qui ne fasse pas intervenir quelque chose d'intelligent, alors oui, si on prédit, si on déterne une régularité, on peut commencer à prédire l'évolution de cette structure.
Donc justement, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, qui fonctionnons en réseau, avec nos machines en réseau, est-ce que le fait de savoir ça, de savoir aussi que effectivement, les réseaux fonctionnent tous un peu de la même manière, mais que nous, il y a une grande différence, c'est qu'à partir du moment où on essaye de nous espionner, de nous pister, de recueillir tant de données et de les faire passer dans des machines de calcul considérables sur nous, ça va faire changer nos comportements, donc ça nous change quand même aussi.
Ça nous change, mais alors sur la question des données, typiquement, donc l'exploitation des données personnelles, ce qui est difficile pour faire changer le comportement des utilisateurs, c'est que c'est pas forcément connu de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la sensation que ces données leur échappent. C'est-à-dire que c'est quelque chose pourtant qu'on rappelle, c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer aussi dans le livre. Et justement, une des difficultés dans le fait de modifier le comportement, et donc par exemple la maîtrise des fake news, etc., c'est le fait qu'on n'est pas suffisamment au courant, à l'échelle de la société, de l'exploitation des données personnelles, de comment fonctionnent ces algorithmes, de comment fonctionnent ces réseaux. Donc justement, il n'y a pas assez de compréhension, on ne se rend pas assez compte de ces choses-là.
Et comment justement est-ce que nos auditeurs peuvent se rendre compte justement par rapport aux fake news qui circulent, par rapport à l'utilisation, l'exploitation de nos données? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire attention à ce qu'on met sur Internet, faire attention à ce qu'on fait circuler, faire attention à ce qu'on...
Tout à fait, alors faire attention à ce qu'on propage comme information, mm-hmm. qui est une partie de l'explication du succès entre guillemets, puisque c'est plutôt négatif, des fake news, c'est qu'elles sont relayées, ces informations. Mmh. Les fake news, alors c'est quoi les fake news? C'est le fait de mettre à disposition une information et de la présenter comme vérifiée, alors qu'en fait elle ne l'est pas. Et d'ailleurs, en fait, elle est facilement démontable, ces fake news. Et leur viralité, elle ne tient pas au fait qu'elle soit robuste en termes de vérité. Leur efficacité ne tient pas au fait qu'il soit difficile de les démonter. Leur viralité, elle tient au fait qu'elle s'est très vite propagée. Et donc pour
comprendre ça, parce qu'au fond, les rumeurs ont toujours existé, sauf qu'aujourd'hui,
bien sûr,
ça se propage.
Bien sûr, elles ont toujours existé.
Sur toute la planète et à vitesse grand V.
D'ailleurs, pour qu'une fake news existe, il faut la créer. Et donc, les personnes qui créent, il y a bien quelqu'un, il y a un groupe d'individus qui créent des fake news et avec des motivations qui sont les leurs. Alors, les deux grandes sont des motivations politiques, recherche d'influence pour influencer d'autres groupes de personnes. Et l'autre est économique. Alors, ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus lié à l'économie qui est derrière les réseaux et le fait que les plateformes dont on discutait tout à l'heure présentent un service gratuit qu'elles cherchent à se rémunérer. Et cette économie qui est derrière génère aussi aussi une motivation dans l'élaboration des fake news.
Et donc le fait de le savoir fait qu'on s'en méfie un peu plus, qu'on fait attention et qu'on ne gobe plus justement.
Exactement, se poser la question du point de vue de la personne qui parle et qui émet une information, c'est extrêmement important. D'ailleurs, ça a été compris par nos parlementaires, qu'il y a une loi qui date de quelques mois, qui réglemente la diffusion de contenus sponsorisés, c'est-à-dire payés, en obligeant dans un contexte de débat d'intérêt général, donc il faut penser tout de suite à un contexte de campagne électorale, qui oblige les personnes qui financent un contenu à être promulgué, à être déclarées. Donc les plateformes doivent déclarer qui sont les personnes qui sont derrière un message, typiquement politique, et combien elles ont dépensé. Et donc ça, c'est une prise en compte, enfin une compréhension qu'il y a un enjeu derrière, dans le fait de positionner qui est la source derrière un message. Et ça, plus on apprend à faire attention à qui est la source derrière le message, plus on est armé pour
se prémunir. Outillé. Donc, quelle est la source derrière le message, autour de la question quelle science des réseaux et comment la partager justement en interconnexion. On s'interroge en écoutant Soul Connection, joli titre, c'est un autre genre de connexion musicale du groupe Diplomats of Solid Sound sur RFI. Sound, carrément, sur RFI et leur Soul Connection, tous connectés, interconnectés en réseau, c'est précisément au cœur des réseaux que vous nous entraînez, Fabien Tarissant, dans votre dernier essai. Votre démarche, on l'a compris, c'est de faire passer au plus grand nombre les enjeux et les défis de l'omniprésence des réseaux dans nos vies numériques, mais aussi de nous faire comprendre, entre fantasmes et réalité, que les dangers ne sont pas toujours ceux que l'on redoute. D'autres chercheurs nous le rappellent. Je propose d'écouter le sociologue Dominique Cardon, auteur notamment de « À quoi rêvent les algorithmes ?»,« Nos vies à l'heure des big data », auteur aussi de « La démocratie Internet, promesses et limites ». Dominique Cardon revient dans un interview donné à Brut sur les réseaux sociaux, Facebook en particulier, qui nous enfermeraient dans une bulle. Et si la réalité était plus complexe, si ces réseaux étaient aussi le reflet de nos sociétés, on l'écoute.
Une page Facebook, ça a 150 amis en moyenne, mais en fait, on discute avec 15 personnes. Et ces 15 personnes, il n'y a pas de mystère. C'est des gens qui se connaissent, qui sont croisés il y a 2 heures, qui vont se revoir dans 3 heures. Donc, c'est des gens qui appartiennent au même cercle. Mais la communication devient continue. On se voit, on échange, et puis après, on pense à l'autre, et puis on lui envoie une photo, et puis on lui envoie une blague, et puis on continue la conversation, et puis on est sur Messenger. Donc, en fait, qu'ont fait les réseaux sociaux, c'est d'abord de s'incruster dans l'espace très ordinaire, très quotidien, très relationnel de la vie sociale des individus. On est en relation avec des gens qui nous ressemblent plus ou moins, qui ont des proximités d'âge, de territoire, de lieux de travail commun, de lieux d'enseignement commun, de sport en commun. Donc, il y a dans nos relations sociales une sorte de principe de ressemblance qui fait que notre vie sociale, on a l'impression qu'on est curieux et qu'on rencontre des gens différents, c'est pas vrai du tout. Et il y a des vraies différences sociales, c'est-à-dire que plus on est haut dans l'échelle sociale, qu'on a du capital économique et culturel, comme on dit, plus en fait on a des réseaux sociaux qui sont variés, diversifiés, géographiquement, socialement, etc. Et du coup on a accès à des informations très riches et très diverses. En revanche, ceux qui ont moins de capital culturel, comme on dit, c'est-à-dire au niveau de diplôme, ont souvent un espace relationnel qui est très très similaire. On a des goûts qui sont assez proches, on a des idées politiques qui peuvent être assez proches, et dans ces cas-là, effectivement, il y a quelque chose qui peut nous enfermer. Mais dire que ça nous enferme, ça ne veut pas dire qu'on est complètement coloré de la même manière. La réalité, c'est qu'il y a toujours de la variation entre les individus et que du coup, il y a quand même un peu de diversité dans cette bulle.
Au fond, il y a presque autant de diversité, de variation dans cette bulle des réseaux sociaux que dans nos vies sociales quotidiennes et tout à fait réelles. Au fond, les réseaux sociaux, c'est ce que dit Dominique Cardon, ils ne nous enferment pas tant que ça. Ils reproduisent en tout cas.
Ils reproduisent quelque chose que l'on fait dans la vie de tous les jours. Je veux dire, le principe de ressemblance qu'il évoque, le principe d'homophilie, on s'attache à des choses qui nous ressemblent. C'est un principe qu'on met en évidence dans les réseaux sociaux, pas simplement les réseaux sociaux en ligne. Il n'y a aucune raison finalement que dans notre comportement en ligne, on ait une démarche qui soit beaucoup plus diversifiée que ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours.
Sauf que ça accélère et ça caricature. Alors et voilà. Ça amplifie.
Donc il y a deux choses en fait qui arrivent. Il y a le fait qu'on observe sur les plateformes sociales, en particulier Facebook, ce qu'on appelle des chambres d'écho, c'est-à-dire le fait qu'on est exposé à des contenus qui nous viennent de nos amis, qui sont très proches de nos propres convictions, de nos propres goûts. Donc ça, c'est un fait. Ça, on peut le mesurer, on peut le voir, on peut calculer l'homophilie au sein des groupes sur ces plateformes sociales. Ça, c'est une chose. La question qui est posée, c'est d'où vient cet état de fait. Et là, il y a quand même un débat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que ce sont les algorithmes qui recommandent des contenus, qui ont tendance à nous recommander toujours le même contenu et donc à nous enfermer.
Nous enfermer quand même, oui, c'est ça.
Ça, c'est la position de Pariser, typiquement, qui a conceptualisé cette notion de bulle filtrante algorithmique. Mais il y a aussi des études qui nous montrent que c'est l'inverse. Et on a des études qui nous montrent qu'en réalité, c'est avant tout les mécanismes d'affiliation entre utilisateurs qui fait que les gens s'enferment. Autrement dit, c'est parce qu'on a une régularité qui nous-mêmes nous informons en cliquant toujours sur les mêmes sujets, en lisant toujours les mêmes news, le même type de news, fait qu'en retour, les algorithmes qui ont été conçus pour détecter des régularités vont détecter qu'on aime ce type de contenu et donc vont commencer à nous proposer toujours les mêmes choses. Donc bien sûr, il y a un écho qui est fait là. Il y a à la fois un phénomène d'enfermement qui est propre, qui est humain, et qu'on observe ailleurs, hors ligne, et puis on a des algorithmes qui vont avoir tendance à les renfermer, à les renforcer, pardon, ces mécanismes.
Et donc c'est un double effet, oui. Mais c'est aussi, on avait l'impression quand même que le web nous ouvrait, hein, sur la Terre entière et le monde entier, même si ça ne nous enferme pas plus que ce que nous sommes déjà enfermés, ça ne nous ouvre pas tant que ça non plus.
Il y a une sorte d'échantement, il faut déchanter un petit peu de cette croyance que tout est disponible, quand on dit tout, on parle encore une fois de plusieurs milliards de pages web, donc c'est pas vrai que on peut accéder à plusieurs milliards de pages web. Il nous faut des outils pour ça. Et ces outils ont pour tendance de renforcer nos propres travers, qui sont des travers d'enfermement. On lit, si nos auditeurs nous écoutent et se posent la question de qu'est-ce qu'ils lisent pour s'informer, ils vont certainement, ils lisent toujours le même journal. Et c'est pas vrai que l'on confronte l'ensemble des points de vue. On lit pas l'ensemble de la presse en partant de l'UMA pour aller jusqu'à Valeurs Actuelles. C'est pas vrai. Et donc, il n'y a aucune raison, finalement, que notre façon de nous informer en ligne soit différente.
Sauf que ce qui nous fait peur, c'est qu'effectivement, ce sont des algorithmes.
Tout à fait. Alors, non, il y a deux choses. D'abord, il y a des algorithmes qui renforcent ça. Et puis en plus, on n'en a pas conscience. Quand on achète un journal, on sait ce qu'on achète. On sait très bien sur quel type d'information, de type de point de vue éditorial on est. Les plateformes en ligne, elles n'ont pas ce rôle de média et elles n'ont pas ce traitement médiatique, ce choix éditorial qui est fait. Et d'ailleurs, si on veut regarder sur Facebook, est-ce qu'il y a une variété de points de vue, c'est vrai. À l'échelle de Facebook dans son ensemble, on a tout un tas de variétés de points de vue pour un même sujet. Là où ça devient faux, c'est quand on s'intéresse à l'information qui est autour des utilisateurs. Alors là, effectivement, on a une fraction de l'information qui est disponible. Et c'est ça qui est malheureusement pas perçu par les gens qui utilisent ces plateformes et ils sont de plus en plus nombreux. Là aussi, on a des études de médiamétrie qui nous montrent que de plus en plus, les gens s'informent via les plateformes sociales et pas via les sources plus traditionnelles.
Donc finalement, qui laisse à ces plateformes le fait de faire le tri, justement.
Oui, et les gens n'en ont pas conscience qu'il y a ce tri. Donc c'est ça, il y a un décalage entre la perception des utilisateurs qui pensent qu'ils ont accès à l'ensemble de l'information disponible alors que ce n'est pas vrai. Et la réalité qui est qu'on leur propose une fraction. Et donc si on arrive à faire comprendre ce phénomène-là, alors on aura repris un peu la main sur ces algorithmes qui, effectivement, ont tendance à renforcer nos...
C'est ça, au fond, il s'agit d'une question de conscience, et finalement, c'est vraiment une bataille de l'attention, mais que nous aussi soyons attentifs à ce que nous faisons et à ce que nous laissons faire, en fait.
Exactement, je pense que si notre réponse à ces phénomènes-là est de dire « c'est la faute aux algorithmes », on a raté, on n'a pas compris le phénomène, et donc on ne répond pas à la question. Une des raisons, c'est que même sans algorithme, dans notre vie en ligne, on a les mêmes phénomènes d'enfermement. C'est ce qu'exposait Dominique Cardon.
Donc c'est, y a bien c'est pas la faute des algorithmes, voilà. Mais il faut savoir que ce sont les algorithmes qui décident souvent pour nous, donc il ne faut pas les laisser...
Enfin, voilà, il faut apprendre à les maîtriser. Il faut apprendre à comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils cherchent à calculer, quel est l'objectif des plateformes derrière. Donc là, il faut comprendre l'économie qui se joue derrière, ce que j'essaie d'expliquer aussi dans le livre. Pour reprendre la main sur ça et avoir un peu de contrôle sur la manière de comprendre un peu mieux comment l'information que l'on est en train de lire nous est parvenue.
Alors pour comprendre tout ça, vous militez avec d'autres éminents chercheurs, enfin militez, j'ai envie de dire ça comme ça, mais en tout cas vous défendez très fort l'enseignement finalement, non pas de l'informatique simplement et du codage, mais de la science informatique. Ça c'est vraiment fondamental.
Tout à fait, je crois qu'il y a deux outils qui nous sont donnés en termes de société pour se prémunir et pour progresser sur ce genre d'enjeux. Le premier, on l'a évoqué, c'est législatif, c'est-à-dire qu'il faut contrôler, il faut encadrer ce qu'il est permis de faire ou pas. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, il y a depuis l'année dernière le RGPD qui est un règlement européen qui renforce aussi la régulation des données personnelles.
Oui, donc vigilant sur les lois.
Vigilant sur les lois.
Parce qu'on est dans un monde qui change. Et
exactement, exactement. Donc faut encadrer ça. Et le deuxième, qui est extrêmement important à l'heure actuelle, c'est celui de l'enseignement. L'informatique va faire son apparition dans l'éducation nationale, dans le secondaire, à partir de 2019, avec un nouveau cours de spécialité qui s'appelle NSI, donc numérique et sciences informatiques. Donc il peut être choisi par les élèves de première et terminale et ceux qui vont être les matières sur lesquelles ils peuvent passer le baccalauréat. Et ensuite il y a un deuxième cours qui est un cours de seconde et qui est pour tout le monde. Qui s'appelle sciences numériques et technologies et qui est un cours pour l'ensemble des collégiens de seconde pour appréhender, disons, justement ce monde numérique qui nous entoure, essayer de décrypter un petit peu les enjeux qui sont derrière et la science informatique qui explique comment ces objets fonctionne.
Et vous le dites très bien, il ne s'agit pas de former de futurs informaticiens, il s'agit de nous former tous à ce monde numérique dans lequel on vit. Hein.
Exactement, de nous outiller, de nous donner les bonnes grilles d'analyse, les bonnes grilles de compréhension de ce monde qui repose en partie sur l'informatique, pour peser plus tard, en tant que citoyen notamment, sur les choix qui vont nous être offerts en termes de développement. Donc il ne s'agit pas de répondre au jour J sur les questions qui nous intéressent là, mais de prendre de l'avance sur les prochains enjeux qui vont se poser à nous.
Et de savoir se poser les bonnes questions. Alors pour être outillé justement et pas seulement instrumentalisé, je ne saurais trop conseiller à nos amis auditeurs et internautes de plonger dans votre essai, Fabien Tarissan, qui vient de paraître aux éditions du Pommier, au cœur des réseaux, des sciences aux citoyens, à lire absolument, où que l'on soit sur la planète, en réseau ou pas. Merci Fabien Tarissan d'être venu partager cette science des réseaux. Et puis je vous propose de faire un petit coup de chapeau à Yann Lequin, l'un des lauréats du prix Turing, le prix Nobel de l'informatique.
Tout à fait, c'est l'équivalent du prix Nobel qui vient d'être décelé à trois personnes, dont un Français, Yann Lequin, pour ses travaux sur l'intelligence artificielle et le deep learning en particulier. Oui.
Cocorico, donc. Merci Fabien Tarissan.
Merci à vous.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio avec Hugo Violas à la réalisation et Juliette Brault en coulisses. Nous vous donnons rendez-vous lundi pour nous reposer la question du mal. Tiens, autour des robots, en provoquant aussi bien les mythes que les philosophes et les informaticiens. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, ça va maintenant être l'heure d'un prochain journal d'information.